À la médiathèque jusqu'au 28 février, une exposition « La nature au bout des doigts » présentée par Pénélope, auteure illustratrice engagée notamment pour l'insertion des personnes sourdes et aveugles. Une exposition composée d'objets entièrement blancs afin de privilégier l'expérimentation tactile et de ne pas être distrait par des rapports de tonalité. Un voyage avec les doigts et les yeux dans la nature au fil des saisons qui se veut un pont entre voyants et non-voyants. Nous accueillons aujourd'hui l'artiste Pénélope pour nous présenter cette exposition, le livre qui est associé et puis aussi un atelier qu'elle a animé le mercredi 14 janvier à la médiathèque, un atelier qui s'intitule Poésie, langue des signes. Bonjour Pénélope.
Bonjour Marion, ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'être à Briançon sous le soleil, la neige et l'air pur.
Vous arrivez au bon moment où la neige est retombée, on retrouve les montagnes hivernales. C'est donc la première fois que vous venez à Briançon ?
Oui, à Briançon, oui, avec plaisir.
Et donc vous êtes venue pour cette exposition à la médiathèque. Avant d'en parler, j'aimerais revenir sur votre parcours. Qui êtes-vous et quel artiste êtes-vous, Pénélope ?
Alors, en fait, je suis une auteure illustratrice engagée. Mon thème de prédilection, c'est l'insertion. Donc, depuis 2012, je travaille avec l'Institut national des jeunes sourds à l'élaboration de livres, expositions, conférences, ateliers et même spectacles en langue des signes pour sourds et entendants réunis. Et depuis 2017, avec de jeunes aveugles, pour l'élaboration de livres tactiles, de livres à toucher, à caresser, et d'expositions interactives et d'ateliers interactifs, dont je crée tout le matériel.
Et qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet de prédilection ?
Alors, en fait, mon père a toujours été malentendant et les 20 dernières années de sa vie, il est devenu sourd et aveugle. Donc, souvent, les sourds me disent que j'articule très bien parce que j'étais habituée, enfant, à bien articuler. Et il avait fait les arts décoratifs. Donc, devenir aveugle, c'était terrible pour lui. Et l'exposition qui est actuellement à la superbe médiathèque de Briançon, « La nature au bout des doigts », qui est une sorte de petit musée blanc tactile pour aveugles et voyants, hein, pour tout le monde, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de réunir les publics sourds et entendants, aveugles et voyants. Ce livre a été vraiment fait pour lui. Il l'a beaucoup attendu parce que c'était au moment du Covid et après il était bloqué dans les ports, à la frontière. Enfin, c'était le parcours du combattant et peu de temps après il est mort en fait. Mais moi je le prends pas du tout comme quelque chose de négatif, mais vraiment quelque chose qui l'a maintenu en vie longtemps. En fait, d'attendre ce livre, parce que les livres en langue des signes, il y était attaché, mais le premier livre tactile encore plus, parce que tout ce qui est visuel était beaucoup plus important pour lui, ayant fait les arts décoratifs. Voilà.
Et donc, il a suivi votre travail. Alors, tous les livres dont vous parliez, il les a suivis en langue des signes, lus.
Tout à fait.
Hein? Et donc, on comprend votre intérêt pour ce sujet. Et puis aussi pour l'art, alors, il vous a influencé peut-être aussi dans cette voie-là ?
Ah oui, moi, je suis tombée dans un pot de peinture quand j'étais petite. Donc, avec un grand-père peintre, une grand-mère violoniste, une autre grand-mère miniaturiste qui avait quitté Paris pour aller faire des croquis de nus, qui avait quitté la province pour aller faire des croquis de nus à Paris, pardon. Et donc, à l'époque, c'était quand même quelque chose. mes parents se sont rencontrés aux arts décoratifs et j'avais un oncle architecte, une tante archi-intérieure, un oncle qui a dessiné les premiers dessins animés en France, Le Roi et l'Oiseau, vous voyez, c'est toute une époque. Et donc, et de ma génération, j'ai beaucoup de cousins et cousines qui sont artistes. Et un cousin qui est un peu comme un grand frère, qui est guitariste classique.
Une famille d'artistes, alors.
Voilà, c'est ça.
Et donc, vous êtes orientée dans cette voie. Comment est-ce que vous avez allié l'art avec cette thématique d'insertion, cette volonté d'insertion?
Ben, en fait, c'est venu progressivement, je dirais, avec la maturité. On sait ce qui est le plus important pour soi et il y a eu une maturation, je dirais. J'ai contacté, à l'époque, c'était le directeur de l'Institut national de jeunes sourds de Paris, Jean-François Dutheil, qui y est resté 9 ans et qui a vraiment donné une ligne extraordinaire, parce que c'était un humaniste, vraiment, et une ligne à cet institut pour sourds, et qui un peu depuis se délitère. Il m'a dit, je vais réfléchir et contacter les bonnes personnes pour vous mettre en relation. Et en fait, c'était exactement ça. Et parce qu'en fait, ils reçoivent énormément de demandes presque tous les jours de collaboration. Donc, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils soient intéressés par mon projet qui était des mains pour dire je t'aime sur les mots doux en langue des signes, puisque pour réunir les publics, je trouvais que c'était intéressant, des messages d'amour. Et il m'a mis en relation avec Monique Gendreau, interprète en langue des signes française, et Alain Gébert, enseignant en langue des signes francophone, tous deux au pôle langue des signes française. Ça veut dire que c'est le pôle qui traite de la recherche et entérine les nouveaux mots en langue des signes francophone pour le monde entier au niveau de la langue des signes française, étant donné que c'est une langue en perpétuelle évolution puisqu'elle a été interdite d'enseignement en France jusqu'en 2005. Qu'on en entend beaucoup parler. En fait, en 1880, les pays européens se sont réunis à Milan et ont décidé, plus d'un siècle après la création par l'abbé de l'Épée de la langue des signes, en s'inspirant en fait des moines qui avaient fait vœu de silence et qui communiquaient par gestes. Il s'était rendu compte que les sourds, en fait, n'étaient pas idiots. À l'époque, on les prenait pour des imbéciles parce qu'ils n'arrivaient pas à articuler. C'est exactement comme apprendre la langue des signes les yeux fermés pour un sourd à apprendre à parler. Donc, vous voyez la difficulté quand même. Donc, voilà.
Pas des moindres.
Et donc, en 1880, les pays se sont réunis, ont décidé que les sourds devaient oraliser. Et ça a été vraiment, à certains moments, hyper barbare, puisqu'on attachait les mains des enfants dans le dos pour les obliger à oraliser. À un moment, on les a même fait être en maillot de bain, immergés dans l'eau jusqu'à la tête pour signer, pour parler, je veux dire, parce qu'ils avaient décrété que dans l'eau, ils parleraient mieux. Enfin, des trucs complètement aberrants. Donc, heureusement, cette époque est loin, mais il y a encore quand même beaucoup de travail, puisqu'il n'y a pas assez d'instituts en langue des signes pour tout. Les sourds. Et la langue des signes aussi est extrêmement adéquate pour certains types d'autisme, pour d'autres problèmes, d'autres déficiences. Hein. Donc, voilà.
Oui, elle est finalement utilisée même au-delà du cercle initial, alors. Et vous, vous parliez cette langue des signes ?
Non, mon père n'a jamais appris la langue des signes, déjà parce que c'était une autre génération, d'autre part parce que, ça s'est fait progressivement, en fait, sa sourdité, donc il n'a pas appris la langue des signes. Mais je ne parle pas la langue des signes, je connais beaucoup de vocabulaire, mais c'est une langue qui est difficile et qui a une syntaxe complexe. Donc, voilà.
D'où l'importance de travailler avec des collaborateurs qui connaissaient sur ce projet de livre dont vous parliez.
Ah oui,
tout à l'heure.
Monique Gendreau est vraiment une experte, on est toujours parti de l'étymologie des mots, et d'ailleurs dans mes livres, je parle de l'étymologie pour pouvoir justement qu'on comprenne mieux le geste, le mouvement en langue des signes. Et parce que qu'on le comprenne de façon consciente ou inconsciente, on mémorise mieux, c'est plus intelligent. Les enfants sont toujours sous-estimés et ils sont tellement intelligents que voilà.
Et pourquoi faire un livre en langue des signes? Puisque si on est sourd, on peut quand même lire normalement des mots.
C'est beaucoup plus compliqué quand même, hein, parce que en fait, on apprend une langue par mimétisme. Donc nous, on prononce des sons, on les entend. Les sourds, ils communiquent en faisant des gestes et en les regardant. Donc c'est exactement ce que je vous disais, en fermant les yeux, apprendre la langue des signes, imaginez la difficulté. Ben, c'est exactement pareil. Donc apprendre à lire, on apprend à lire après avoir appris à parler.
Effectivement, oui.
Il y a une logique. Donc c'est extrêmement complexe. Par contre, j'ai rencontré déjà des bibliothécaires sourdes profondes dont je ne me rendais même pas compte qu'elles étaient sourdes. Je m'en suis rendue, alors que j'ai plutôt l'habitude, je m'en suis rendue compte au bout d'un certain temps. Elle me dit « Ah, mais mets-toi en face, Pénélope, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Ben, je suis sourde quand même. » Parce qu'elle lisait sur les lèvres, donc c'est énormément d'orthophonie. Et la sourdité d'un individu à l'autre est différente, si elle est de naissance, si elle n'est pas de naissance, si elle est profonde, pas profonde, et ce n'est pas quelque chose de stable. Donc vraiment, la langue des signes permet aux sourds de ne jamais être... séparés, isolés, pouvoir communiquer. Et c'est une langue qui est extrêmement enrichissante pour tout le monde, pour les entendants, d'une part pour les sensibiliser, mais aussi pour s'exprimer avec le corps. Ça fait fonctionner l'autre hémisphère du cerveau. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, beaucoup d'autistes communiquent beaucoup plus facilement avec la langue des signes ou des trisomiques. Moi, j'ai eu une sœur trisomique, donc je suis un peu au fait. C'est une langue aussi qui, à l'heure du digital, permet d'être dans le concret, dans le calme, le silence, et donc pas de pollution sonore, et aussi un rythme concret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses à toute vitesse, zapper. Voilà. Donc tout ce que je fais, je ne l'ai pas fait du tout pour ça, mais c'est vraiment, à l'heure du digital, l'anti-virtuel, en fait. Pas que je sois contre, mais quand même à petite dose. Et puis avant 6 ans, il faut vraiment éviter, quoi.
Et pour revenir sur le livre, donc, à quoi ressemble un livre en langue des signes?
Ben en fait, en langue des signes, un livre ressemble à un livre illustré. Puisque pour évoquer les différents mouvements, quand ce sont des mots comme mon livre « Des mains pour dire je t'aime », des mots doux qu'on a créés tous ensemble pour le livre et qui après ont été intégrés au vocabulaire de la langue des signes française, donc c'était vraiment une chouette aventure, où parle avec les mains, où j'ai travaillé avec une maman sourde et son bébé de ses 1 à 2 ans et suivi l'acquisition de ses premiers signes comme les premiers mots pour un entendant qui au fur et à mesure du temps s'affine comme la prononciation pour les bébés entendants où les voyelles au début sont beaucoup mieux prononcées que les consonnes et papa beaucoup mieux que anticonstitutionnellement par exemple. Et ben pour les sourds c'est exactement pareil, c'est qu'avec une seule main, les pouces opposables c'est beaucoup plus tard, et avec les deux mains, enfin les choses se précisent au fur et à mesure, ce qui est logique, mais c'est par mimétisme. Et donc ce sont des livres à rabat pour avoir vraiment la fluidité des mouvements qui sont décrits. Et la première fois que j'ai rencontré Alain et Monique à l'Institut des jeunes sourds de Paris, ils ont été à la bibliothèque me chercher des livres où il y avait des petits schémas, très schématiques, c'est le cas de le dire, avec des flèches pour certains mots.
Et ils pour m'ont le dit, mouvement, pour indiquer le mouvement.
Pour indiquer le mouvement. De la main. Et ils m'ont dit, mais ça, ce sont des livres pour entendants. Hein. Ce n'est pas du tout des livres pour sourds. On ne comprend rien. Ce n'est pas du tout précis. Il faut être très, très juste et précis. Et le premier livre, j'ai dû refaire pas mal de dessins de façon à ce que je faisais des fautes par... inhabitude, je dirais, de la langue des signes, où, par exemple, pour fée, j'avais mis les deux doigts qui se rejoignaient au bout de l'index et du pouce, alors qu'en fait, c'était entre la première et la deuxième phalange de l'index et le pouce, parce que fée, c'est la baguette magique, et on la tient pas au bout du doigt, mais à l'intersection de la phalange. Donc, tout est très logique, très, très logique.
Donc, très précis.
Donc. Voilà. Mais on n'a pas besoin de connaître la langue des signes pour suivre un atelier ou un de mes spectacles. Depuis 2022, avec le poète sourd Léven Bescardès, avec qui, et Monique Gendreau, hein, qui suit tous mes projets, avec qui on a créé les poèmes Amour rouge et ciel bleu du titre Amour rouge, Colombe blanche et panthère noire du titre Colombe blanche, où ce sont des livres en leporello, donc en accordéon, pour avoir la fluidité des poèmes et de la langue des signes. Donc, on a créé un spectacle pour le Festival Tandem, qui maintenant est un spectacle itinérant, on sillonne pas mal la France avec, et on a créé des poèmes supplémentaires, j'ai fait les décors, et on a même également créé une transposition en langue des signes d'un morceau de musique de la flûte enchantée de Mozart, Papageno, Papagena, qui a le registre grave et le registre aigu de Papageno et de Papagena, et parce qu'on cantonne beaucoup les sourds au son grave, parce que ce sont des vibrations qu'ils perçoivent davantage. Et donc, volontairement, j'ai voulu qu'on crée une transposition en langue des signes qui n'est pas du tout auditive, où tous les spectateurs sourds, entendants, enfants, adultes peuvent suivre, puisque c'est un spectacle interactif, hein. Et avec simplement deux signes, ils suivent complètement la transposition qui est l'histoire d'un homme, d'une femme qui se rencontrent, qui sont mi-humains, mi-oiseaux, qui tombent amoureux, qui se projettent dans l'avenir d'avoir des enfants et de vivre heureux. Voilà. Donc,
et donc ces spectacles sont à base, donc, vous disiez, de vos livres de poèmes.
Alors, le spectacle Poème couleur en langue des signes et un autre spectacle qui aura lieu pour la première fois la semaine prochaine, qui sera en lien avec le livre Danse avec les mains, mais que je n'ai pas encore fait parce qu'on a été la chorégraphe Jos Pujol de la compagnie Singulier Pluriel, que j'ai rencontré lors d'une résidence à Montpellier, avait le même projet que moi de danse en langue des signes sur le vocabulaire de la langue des signes spécifique au métier de la danse qui n'existe pas encore. Donc, elle l'a créé avec des danseurs, des sourds et donc on a postulé pour une résidence pour créer un spectacle avec un artiste. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle « Regards croisés », illustration, danse et langue des signes, où la danseuse Marie Sabot de la compagnie Singulier Pluriel dansera. Puis, de façon interactive, 10 enfants de 4 à 10 ans viendront sur scène danser également. Voilà. Et ça donc, mêle langue des signes et danse.
Et danse. Et c'est tout public.
Tout public. Enfants, adultes, sourds-entendants.
J'aimerais maintenant qu'on passe à une deuxième partie de votre travail, plutôt donc destinée aux personnes aveugles. Et pas que. En tout cas, vous disiez vraiment faire un pont entre ou réunir personnes voyantes, non-voyantes, mais... En l'occurrence, je pense à cette exposition qui est désormais à la médiathèque de Briançon. Comment avez-vous travaillé sur ce projet qui est aussi lié donc à un livre ?
Donc, La nature au bout des doigts est un livre qui est entièrement blanc, en relief, qui est une promenade poétique à travers les saisons. Donc, un chemin à faire avec les doigts. J'ai voulu créer une sorte de petit musée blanc tactile pour ne pas être distrait par les couleurs et qui est de matière naturelle, de matière manufacturée, à faire par binôme, un enfant accompagnateur ou un adulte. Hein, parce que finalement, les adultes aiment beaucoup aussi tout ce qui est tactile et en ont grand besoin. Et un autre participant qui a un bandeau sur les yeux. Et donc l'un le guide, l'accompagne, et après on intervertit les rôles. Donc 16 matières naturelles, 16 matières manufacturées, une table de pique-nique entièrement blanc en trois dimensions qui fait le lien entre les deux et bien sûr les originaux du livre. Mais en fait, on s'aperçoit que ça soit en zone littorale, en zone citadine, en zone rurale, en zone alpine, que de toute manière, les enfants connaissent mieux les matières manufacturées que les matières naturelles.
Ah oui.
Donc ça laisse songeur.
Tout à fait. Et donc sur ces reliefs, lorsqu'on touche, ça représente des objets de la nature, vivant.
Alors on peut toucher de la vraie fourrure, par exemple, qui est de la vraie fourrure de lapin. Donc l'exposition a déjà eu lieu une trentaine de fois et dans 30 villes différentes. Et la fourrure de lapin qui a été tripotée par des milliers d'enfants n'a pas bougé. Alors que, par exemple, en écho, la fourrure synthétique, je l'ai changée déjà plusieurs fois parce qu'elle était usée. C'est-à-dire qu'entre le monde naturel et le monde manufacturé, il y a vraiment une usure, une consommation qui n'est pas du tout la même. Voilà. Donc ça laisse aussi réfléchir. Et donc, il y a également des noix, des bogues. Mais je ne vais pas tout vous raconter
oui.
parce qu'il faut découvrir. Et pas
il faut venir à la médiathèque.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord, mais en tout cas, il y a donc ce parcours tactile, sensoriel à découvrir. Et ensuite, on peut trouver votre livre aussi
Alors, mon livre est épuisé depuis 2022, mais sera réédité en septembre 2026. Mmh. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Avec le prochain titre, La vie au bout des doigts, qui sera du même format et qui traite de la naissance à travers la vie des papillons qui se rencontrent, qui s'accouplent, qui pondent, qui deviennent chenilles, chrysalides et qui s'envolent, voilà. Et une exposition à partir de septembre sera disponible qui sera une sorte de petit musée de mise en scène tactile. C'est-à-dire que je crée 10 costumes. J'en ai déjà réalisé 4, hein. 2 papillons, une chrysalide, une chenille de 5 mètres de long où 3 enfants peuvent aller dessous, ou un seul ou deux, enfin, à volonté. Donc des costumes entièrement blancs, il y aura une salade, un pamplemoussier, un cerisier, de la ciboulette, du romarin et un poireau. Donc, les enfants pourront se déguiser, se mettre en scène. Et de la même façon, il y aura un enfant responsable accompagnateur, costumier, et les enfants qui pourront interpréter leur rôle. Cette fois-ci, ça ne sera pas avec un bandeau qui obstrue complètement la vue, mais qui obstrue partiellement. Donc, ça va être différent. Soit rayé, soit voilé, soit on peut voir simplement au centre de la vision ou à la périphérie de la vision pour mieux comprendre aussi les différents troubles de cécité. Et puis, j'aime pas faire deux fois la même chose. Et il y a 2 autres titres, La mer au bout des doigts et Le jardin au bout des doigts, qui sont disponibles encore, et une exposition qui est une sorte de petit musée blanc tactile, mais qui associe 2 sens. Donc, ça va être tactile olfactif, tactile sonore, et tactile perception aquatique. Donc, par exemple, on touche une pomme de pin, on termine même par un poisson. Les enfants adorent les mauvaises odeurs. Et on sent l'odeur à chaque fois. On doit les identifier toujours avec le système de binôme et un petit masque sur les yeux. On caresse un hibou, un perroquet, un chaton, etc. On entend la bande-son du miaulement, du ululement, du croassement, etc. Et on doit les identifier. Et dans l'eau, des éléments aquatiques tels que des coquillages, des galets, du corail, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de spectacle. Il y a beaucoup d'interventions. Donc, j'ai créé beaucoup de matériel et je vais continuer à en créer là pour le prochain livre. Donc, par exemple, j'ai un parcours sensoriel pour les années crèche et maternelle, des boîtes sensorielles, un atelier tactile aquatique, un atelier tactile olfactif, un atelier tactile gustatif de 10 mois à...
Et comment
sans limite d'âge.
Et comment les avez-vous conçus? Alors, comment les avez-vous imaginés? Est-ce que c'est comme pour vos premiers projets? Vous êtes associé à un institut avec des collaborateurs?
Alors là, pour les ateliers, j'ai fait de façon intuitive, sans trop réfléchir, ça vient tout seul. Moi, je n'ai pas de problème pour avoir des idées, c'est toujours un peu en ébullition. Et par exemple, j'utilise beaucoup mes moments dans le train pour travailler. Je travaille très, très bien dans le train. Comme je sillonne pas mal, c'est pratique. Et donc, je les ai mis en application. Et chaque atelier est différent parce que chaque public est différent. Par exemple, à Marseille, une fois, j'ai eu un atelier. Ils avaient tous entre 10 mois et 2 ans, avec évidemment leurs parents. Et donc, je me rappelle d'une petite fille à 10 mois qui avait que quelques dents, qui croquouillait en touchant les éléments. Et quand c'est comme ça, quand ils sont tout, tout petits, ils n'ont pas de bandeau sur les yeux parce qu'ils n'aiment pas. Et je glisse les éléments sous un tissu et ils touchent sous le tissu qui occulte.
Pour garder quand même cette
voilà.
Non-vision.
Et ça fonctionne très, très bien.
D'accord. Est-ce qu'il y a dans les livres, en tout cas, il y a du braille? Ou
non.
C'est vraiment que...
Alors ça a été une volonté, c'est fait sciemment, hein. Ça n'est absolument pas un oubli, parce que les livres coûtent entre 20 et 13,50 euros, ce qui est vraiment abordable pour des livres tactiles. Les livres tactiles qui existent actuellement sont avec des matières différentes et vont de 40 à 170 euros. Donc, pour partager, pour mélanger les publics, pour que les parents puissent acquérir les livres de façon simple et usuelle, utiliser le braille nécessitait de doubler le prix du livre. Donc ça a été une volonté, sachant que tous les instituts ont une machine qui tape le texte et en braille et qui est sur un pelliculage transparent qui colle sur les livres au niveau du texte.
Parce qu'il y a un peu de texte quand même dans vos livres, c'est ça?
Oui, il y a un peu de texte, simplement pour la nature au bout des doigts, par exemple. Je suis toujours pour ne pas sous-estimer les enfants, bien que je le fasse aussi, hein, parce qu'ils sont tellement brillants, tellement extra. En fait, pour leur apprendre un vocabulaire très précis, ils mémorisent très bien et de toute manière, pour apprendre à parler, il faut avoir de la matière, il faut avoir des choses à se mettre sous la dent. Donc, tout le vocabulaire des éléments, ce matin, j'étais avec un petit garçon et on parlait d'ailerette, des petits éléments de la nature, ben, on apprend à les nommer et c'est comme ça qu'on peut enrichir son vocabulaire. Et puis, c'est tellement agréable.
Eh bien, merci, Pénélope. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Un mot de la fin, peut-être?
Ben, c'est toujours un plaisir de parcourir la France, de rencontrer des publics si différents. Ce matin, j'étais avec des enfants d'IME qui ont été vraiment extra. On a fait un atelier de création de dessins tactiles par le collage et je tenais à les féliciter.
Merci, merci Pénélope. Et on retrouve donc votre exposition à la médiathèque jusqu'au 28 février.
Merci beaucoup.